À l'opposé de la plupart des disciplines sportives, les gens se disent que c'est facile, pas juste parce qu'on le fait avec une impression de facilité, c'est que vraiment on doit donner l'impression que c'est facile, on doit cacher l'effort, on doit pas... Nous, on peut pas faire un cri avant de faire un saut ou avoir un gros élan bien visible. Enfin, je veux dire, le but, c'est que c'est l'air de faire pouf, enfin, de vraiment... C'est-à-dire que les gens se disent que ça a l'air facile, c'est l'objectif.
Bonjour, je suis Guillaume Decvive, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocha.care, une solution de santé mentale au travail, et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez Mocha.care, nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast Les secrets du mental, nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager et s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour Léonore.
Bonjour.
Écoute, jusqu'à maintenant, on a eu des athlètes où la discipline peut parfois atteindre le statut d'art. Mais aujourd'hui, c'est assez différent. On va entrer dans ton monde, à toi, Léonore, le monde de l'opéra, de la danse classique, du ballet, des disciplines qui sont, par définition, un art. Et on dit souvent que l'art doit transcender le réel, doit nous élever. Et on se doute que pour arriver à ça, ça s'accompagne d'une rigueur qui est extrême, d'abnégation, d'une exigence exceptionnellement élevée. Alors, je suis ravi de t'avoir au micro de ce podcast pour parler de cela, et notamment de la gestion de la pression, de la gestion de la motivation, des émotions qui doivent venir avec cette exigence particulière. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es une danseuse étoile de l'Opéra de Paris depuis maintenant 2016, et tu as commencé la danse à l'âge de 4 ans, et à l'âge de 18 ans, en 2008, tu rentres dans le corps de ballet de l'Opéra. Et donc, 11 ans plus tard, tu deviendras danseuse étoile. Tu as interprété des très grands rôles dans des ballets iconiques, tels que Le Sacre du Printemps ou Roméo et Juliette. Donc, ça me donne particulièrement envie de faire cet épisode avec toi. J'ai commencé à te présenter, mais est-ce que tu peux le faire à nouveau, peut-être avec ton angle à toi, tout simplement?
Alors, factuellement, effectivement, je suis donc danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Comme tu l'as mentionné au début de ton introduction, c'est effectivement une discipline à la fois sportive et artistique qui diffère en ça peut-être des autres sportifs que tu as pu recevoir. Et donc, mon quotidien est à la fois fait d'une très grande discipline et rigueur sportive, athlétique, avec tout ce que ça comporte d'entraînement et de résistance physique sur le long terme, on va dire. Et à la fois cet aspect artistique qui peut-être est ce qui nous a probablement tous donné envie de faire ça et qui est aussi ce que le public perçoit de nous, plus l'aspect artistique finalement, et qui nous donne la motivation de faire voilà, tous ces efforts physiques. Et par ailleurs, je suis aussi maman d'une petite fille d'un an et demi. Et voilà.
Et alors, tu as commencé donc la danse à 4 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts dans la danse? J'avais vu une de tes interviews où tu disais qu'il y avait ce bonbon qui t'aidait à te motiver à la fin des cours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment c'est né tout ça?
Bah, c'est complètement le seul souvenir que j'ai de ces cours de danse à 4 ans parce que moi, j'étais quand même petite. Pareil, j'ai du mal à expliquer si c'était une volonté de ma part ou si c'est juste mes parents qui ont inscrit une petite fille avec plein d'énergie à une activité. Et en l'occurrence, il y avait ma cousine dans le cours et j'aimais beaucoup ma cousine et les bonbons. Donc du coup, ça a été un super match. Ouais.
Et donc c'est comme ça que débute la carrière d'une danseuse étoile sans se rendre compte, avec des motivations finalement peut-être pas directes sur la danse.
Ah oui, non, vraiment rien à voir. Rien à voir, je me souviens juste, alors je peux pas vraiment me mettre un âge aussi précis que 4 ans, c'est peut-être un peu plus tard, mais je me souviens que je dansais beaucoup dans mon salon. Donc ça c'était, et mon choix de musique était des musiques classiques, ma mère écoutait beaucoup d'opéra, moi j'aimais pas tant que ça l'opéra lyrique, mais par contre je mettais toujours des CD, parce que je suis vieille, de Chopin. ou de ou des danses hongroises de Brahms. C'était mes deux choix principaux. Et avec ça, je dansais dans le salon. Donc, je pense que ça a été vite un moyen d'expression privilégié.
Et après, tu as été repérée vers l'âge de 10 ans environ. Est-ce que c'est à partir de ce... Enfin, à quel moment tu as commencé à te dire, tiens, je vais peut-être en faire plus qu'un loisir? Parce que c'est à la fois, il faut le faire très jeune. Et en même temps, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, bon, enfin, la plupart des jeunes, on a encore un enfant, on ne pense pas forcément à sa carrière. Enfin, en tout cas, personnellement, j'y pensais pas trop. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Bah, effectivement, jusqu'à ce qu'un professeur repère mon potentiel physique et me dise, bon, voilà, c'est un métier, est-ce que tu aimerais essayer de travailler un petit peu plus, de prendre des cours particuliers, de te confronter à des concours pour voir ce que tu vaux dans ce domaine-là? Je pense que, enfin, non, mais très clairement, si un professeur ne me l'avait pas suggéré, j'aurais pas eu l'idée toute seule à 10 ans. Ouais. Mais quand elle me l'a proposé, ça a dû m'attirer puisque j'ai donc quitté l'école de danse dans laquelle j'étais, qui était sympa, où j'avais des copines, et je suis arrivée dans son école et elle était beaucoup beaucoup plus stricte. J'avais pas de copines puisque c'était nouveau, et ouais. Et en fait, je sortais de tous les cours particuliers en pleurant. Donc, enfin, je veux dire, ambiance nettement moins sympa, mais j'ai quand même eu envie de m'accrocher et de continuer. Donc, pareil, ce sont des souvenirs flous parce que c'était il y a longtemps. Ouais. Mais j'imagine qu'il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup, qui était peut-être aussi, parce que je pense que je ne réalisais pas exactement ce que c'était que le quotidien de danseuse à ce moment-là. Enfin, ça certainement pas. J'avais déjà eu la chance d'aller à l'opéra. Mes parents m'avaient emmenée. Donc, j'avais déjà vu des ballets. J'avais déjà été happée par la magie. Ouais. Mais bon, on ne sait pas à quoi ressemble un quotidien de danseuse, à moins d'en faire l'expérience. Donc, ouais. Du coup, j'étais, je pense, plus attirée par l'aspect rigueur et discipline qui me plaisait, il faut le dire. Ouais. J'ai même dépassé et... Il y avait ce côté, je vais y arriver, ce truc qu'elle me demande que j'arrive pas. Oui.
Ouais.
Le défi. Oui, le défi, exactement. J'étais assez, j'aimais beaucoup le sport, j'aimais l'aspect assez, voilà, dépassement de soi et compétitif finalement du sport. Et finalement, je le retrouvais dans la danse au départ. Oui.
Et tu vas rentrer plutôt plus tard à l'opéra, l'école de danse de l'opéra, que les autres. Pourquoi finalement t'es rentré un peu plus tard? Quel est un peu ton parcours?
Alors, donc quand ce professeur m'a repéré, que j'avais 10 ans, il y avait beaucoup de travail à faire pour retrouver un niveau adéquat pour pouvoir présenter les écoles, parce que ma formation n'avait pas été optimale jusqu'à présent.
Oui.
Et j'ai assez rapidement présenté l'école de danse de l'opéra, parce qu'à ce moment-là, on pouvait se présenter jusqu'à ses 12 ans. Donc ouais. Là, à 11 ans, je me suis présentée, j'ai juste pas été prise.
Oui.
Et à 12 ans, j'ai soumis un nouveau dossier qui m'a été rendu avec un post-it dessus marqué trop vieille de 3 semaines. Donc, j'ai pas pu me représenter en fait à l'âge de 12 ans.
Comment t'as vécu ça à 12 ans? C'est un peu trop vieille. Entendre trop vieille
oui.
À 12 ans, c'est un peu paradoxal. Bon, on peut comprendre qu'il y a des critères très stricts, mais.
Bon, on le prend au sérieux, hein, parce que je savais qu'effectivement, il y avait des enfants du coup, qui rentraient à 8 ans. Hein, donc, j'étais là, bah oui, voilà, ça y est, je suis trop vieille, j'ai 12 ans et je suis... l'aspect de 3 semaines était un peu frustrant, mais j'étais donc trop vieille. Et, mais ce n'était pas un trop vieille définitif, puisqu'il y avait un autre moyen de rentrer à l'école de danse de l'opéra. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Hein. Maintenant, on peut rentrer jusqu'à... je pense jusqu'à 15 ou 16 ans, sans distinction. Mais là, on pouvait rentrer en tant qu'élève payante. C'était un statut particulier et c'était entre ces, donc 15 et 16 ans. Et on pouvait faire une année payante avec les élèves de l'école de danse de l'opéra, après avoir été sélectionnée, bien sûr. Et à l'issue de cette année, soit on nous disait merci beaucoup, au revoir, soit on nous intégrait parmi les élèves, entre guillemets, normales.
D'accord.
Et donc, ça, c'était mon objectif. Mais en attendant, mon professeur estimait que faire des cours, même quasiment tous les jours de la semaine, juste une heure et demie, ça ne suffisait pas et qu'il fallait que je rentre en horaire aménagé. Et donc, j'ai été au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Donc là, j'ai été prise et j'ai fait 2 ans là-bas. C'était 2 années qui étaient très formatrices. Je ne dirais pas que j'y étais très heureuse, mais en revanche, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, on va dire.
Ouais.
Et j'ai pu augmenter le rythme de travail. Et j'étais prête finalement à présenter l'opéra. Donc j'ai fait ma vidéo quand j'avais 14 ans et j'ai été prise en élève payante à 15 ans.
Et là, tes rêves, entre 10 et 15 ans, on va dire, tu avais déjà un rêve précis ou tu t'engageais dans la voie, finalement, sans trop penser non plus à...
Bah, non, l'avantage d'avoir eu des obstacles comme ça, c'est que vraiment, je concrétisais la véritable envie d'aboutir à ce rêve. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vraiment envie que ça marche. Donc, malgré les difficultés, on va donc redoubler de travail, se remettre en question, trouver des façons de travailler plus. Et donc, finalement, quand j'ai intégré l'école de danse de l'opéra, c'était déjà un rêve qui se réalisait, alors que je pense que pour... Si ça m'était arrivé petite, entre 8 et 10 ans, j'aurais probablement pas compris ce qui m'arrivait, comme c'est le cas de... Je côtoie plein de personnes à qui c'est arrivé, et c'est vrai qu'ils me disent, bon, on se retrouve là, dans un internat, on est content de danser, mais on n'a pas encore forcément formulé ce rêve. Alors que moi, quand j'y suis rentrée à 15 ans, c'était clair et net que c'est ça que je voulais faire. J'avais vu des spectacles, j'avais vu un million de films qui portaient là-dessus. Et donc, j'avais déjà l'impression d'un rêve accompli à 15 ans quand je rentrais à l'école de danse de l'opéra.
Oui, tu t'étais déjà un peu battue pour en arriver là et tu avais dans ta tête, je ne vais pas en rester là non plus.
Oui, tout à fait.
C'est une étape. Et est-ce que tu commençais à avoir cette idée de « j'ai envie de devenir danseuse étoile » ou c'est tellement lointain que c'est un rêve qu'on n'ose même pas se formuler ?
Je crois que c'est un rêve qu'on se formule clairement.
D'accord.
C'est l'objectif, parce que c'est quand même... je pense que c'est la raison pour laquelle on travaille autant et c'est aussi ce qu'on voit dans les vidéos, ce qu'on voit sur la scène, tout est fait pour mettre en valeur les danseurs et danseuses étoiles. On a la lumière sur nous, les plus beaux costumes, les plus beaux diadèmes, on raconte l'histoire, c'est quand même tout est fait pour attirer le regard sur nous. Donc,
cette notion de prendre la lumière, c'est vraiment là c'est littéralement le cas en fait.
Oui, c'est vrai, on a des suiveurs sur nous pour être sûr qu'on soit tout le temps bien éclairé plus que les autres. Oui, c'est pas très démocratique comme fonctionnement, mais effectivement, c'est comme ça. Et donc, c'était complètement le rêve, de devenir danseuse étoile. Je pense qu'aussi, encore une fois, j'avais envie d'être la meilleure un peu dans tout ce que je faisais. Ça marchait pas forcément, mais c'était quand même un drive. Ouais.
D'accord. Et alors, le 31 décembre 2016, il y a la vidéo qui est disponible sur YouTube, donc j'ai pu la regarder. Tu es nommée danseuse étoile à l'issue de la représentation. Par définition, tu ne sais pas si tu vas être nommé dans ces étoiles, parce que c'est toujours pendant la représentation que la décision est prise, c'est annoncé. Donc tu es encore sur scène à la fin de la représentation. On voit dans cette vidéo l'émotion que tu me diras, tu me corrigeras, mais on a l'impression que tu essayes de ne pas montrer, mais qu'on sent quand même transparaître dans tes yeux, dans ton regard, dans ton sourire. Et assez incroyable, à un moment qui a l'air très fort. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu l'as vécu?
Oui, alors ça fait partie de ces moments qui sont tellement intenses, qui sont pareil un petit peu flous. Il y a un côté rêve parce que déjà on est épuisé physiquement. Il faut se rendre compte qu'on sort en l'occurrence, je sortais d'un trois actes du Lac des Cygnes que je faisais pour la première fois. Ouais. Donc physiquement, quand même pas mal à bout. Et cette annonce arrive et moi, tant que j'entends pas mon nom et danseuse étoile, je me dis c'est pas ça peut pas être ça. Puis une fois qu'il le dit, je me dis mais vous êtes sûr, il y a peut-être une erreur. Enfin, vraiment, il y a une forme d'incrédulité devant cette information qui est finalement un peu trop importante à mes yeux pour l'encaisser d'un coup comme ça. Et donc, il y a aussi le fait qu'on est devant un public, donc faut saluer, faut rester présentable, on va dire. Ouais. Donc, du coup, on essaie de garder la face, de saluer, de faire ce qu'on a vu les gens faire. Donc, je salue mon partenaire, je remercie. Je me souviens vraiment de me dire, mais c'est en train de se passer, donc là, il faut que tu savoures et que tu profites de ce moment, parce que c'était ton rêve depuis vraiment très très petite. Et là, je me sentais pas en possession de cette information. J'étais juste en train d'essayer de pas faire n'importe quoi.
Ouais.
Et à vrai dire, j'ai mis bien 6 mois à réaliser, en fait. Enfin, c'était long après, parce que... En fait, avoir le rêve de sa vie qui se réalise, il y a quand même un truc à accepter, à digérer. Surtout qu'on est toujours la même personne. Je ne suis pas tout à coup devenue meilleure. Et ce titre qui, pour moi, représentait l'excellence absolue, bah, tout à coup, il faut l'incarner. Et voilà, c'est un peu long à accepter. Et aussi, moi, j'ai continué de faire des rêves et des cauchemars, surtout des cauchemars, hein, après, qu'en fait, il fallait que je repasse encore un petit concours pour être sûre que, en fait, c'était une erreur. Que... Enfin bon, voilà, il y a eu consciemment et inconsciemment un vrai temps pour digérer l'information. Donc du coup, le jour J, évidemment, c'était merveilleux, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir juste été passée dans une machine à laver d'émotions, quoi. Je n'ai pas vraiment réalisé.
Et là, dans ce que tu dis, pour moi, il y a un peu la notion de syndrome de l'imposteur qui est, à savoir, on a peur qu'on découvre que tu n'as pas le niveau ou que tu ne mérites peut-être pas ce titre. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu l'as vécu?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un titre qui, quand j'étais enfant et en grandissant, qui représentait vraiment les meilleures danseuses du monde. Et tout à coup... moi je me connais, je suis dans mon corps, je sais tous les défauts que j'ai, je sais toutes les choses sur lesquelles j'ai envie de progresser, toutes les choses dont je suis pas encore contente, et elles sont toujours là, et sauf que maintenant on va attendre de moi à chacune de mes apparitions de l'excellence, c'est-à-dire pas juste que ce soit bien mais vraiment que ce soit excellent. Et en fait, c'est beaucoup.
Ouais.
C'est beaucoup et c'est au quotidien aussi parce que ce rêve qui s'accomplit, c'est le rêve de la majorité des gens dans la compagnie de l'opéra, des gens que je côtoie au quotidien. Ouais. Et il y a aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire que j'ai été promue, une autre aurait pu l'être et ne le sera pas. Ou ne l'a pas été à ce moment-là, en tout cas.
Ouais.
Et donc, il y a l'idée de mériter ce poste quotidiennement, même dans notre entraînement, si vous voulez. C'est-à-dire pas que pendant les spectacles, mais au cours, en répétition. Et du coup, c'est vrai que spécialement, on va dire, les 2-3 premières années, c'était quand même une très grosse pression que je me mettais, qui m'était mise aussi, hein, mais que je me mettais probablement encore plus. Et je dirais pas que je l'ai mal vécu, hein, parce que ça fait partie du deal.
Ouais.
On sait que ça vient avec pas mal de pression, ce titre. Et c'est juste...
Tu l'avais en tête avant de l'avoir, que ça allait venir avec autant de pression? Tu devais t'en douter, mais est-ce que tu...
J'ai appris à déjà réaliser que les premiers rôles venaient avec pas mal de pression, puisque ça, voilà, c'est le rêve, et on fait des premiers rôles avant d'être nommé étoile, généralement. Donc du coup, j'avais déjà eu ce sentiment, voilà, là je suis devant toute seule sur scène, tout le monde s'écarte et j'ai un diadème et la lumière tombe sur moi, il faut que j'assume. Donc ça, c'était déjà une première partie de réalisation du poids qui venait avec l'opportunité. Et après, le titre, c'est vrai que c'était encore autre chose. Parce qu'il faut démêler ce qu'on se projette soi de ce qui est attendu des autres. Est-ce que ça se rencontre toujours? Et il faut l'assumer au quotidien. Et ce qui est plus dur dans cette situation d'étoile, je trouve, c'est que, en fait, assumer ce titre et l'excellence qui va avec les jours où ça va, c'est pas trop compliqué. Mais en fait, c'est du long cours quand même. J'ai été nommée à 26 ans, ma retraite sera à 42 ans. Sur tout ce temps-là, je suis pas tous les jours... au top.
Oui, ce qui est normal.
Voilà,
ce qui est humain, en fait.
Ce qui est humain. Sauf que les jours où on n'est pas au top, et ben là, c'est plus dur. Parce qu'il faut réussir à projeter quelque chose quand même qui fait rêver et que les représentations soient toujours excellentes. Donc c'est un sacré marathon de la confiance en soi.
Oui, parce que j'imagine que ça vient avec, tu commençais à le dire, un regard des autres qui est encore plus exigeant, en se disant, si elle l'a eu, alors c'est pas forcément de la rivalité, mais il doit y avoir quand même, elle l'a eu, donc elle doit le mériter, donc on peut se sentir, j'imagine, challengé un peu au quotidien, il faut projeter cette excellence. Ça a été pesant pour toi, ou si ça n'a pas été pesant, comment est-ce que tu as fait en sorte que ce soit pas pesant?
Bah, donc justement, les moments où on ne se sent pas au top, c'est quand même dur, bien sûr. Mais je pense que, en tout cas, ce qui permet d'en arriver là et ce qui est la meilleure façon de réussir une carrière comme ça sur le long terme, c'est justement la gestion des moments qui ne vont pas. Parce que la plupart des gens sont capables d'être très bons, surtout une fois qu'on a été sélectionné sur des années d'école puis de corps de ballet. La plupart des gens arrivent à être très bons quand ils sont en forme. Ça, ce n'est pas compliqué. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à maintenir un niveau suffisant et ne pas s'effondrer psychologiquement quand ça va pas trop et qu'il faut quand même être voilà, projeter quelque chose qui serait le top. Et je pense que jusqu'à présent, dans ma carrière, je pense qu'il y a un moment où j'ai pas réussi à faire ça, mais sinon, à peu près. Donc, et je pense que c'est aussi comme ça que j'ai réussi. Hein. C'est pas qu'une question voilà, de talent, ce n'est pas qu'une question de travail, c'est aussi voilà, une question de gestion de son stress, de cette pression et évidemment la gestion de la discipline et de la technique quand on n'est pas complètement au top.
Et alors, comment tu as fait pour bien gérer cette pression, ce stress? Toi, tu arrives à prendre du recul? Il y avait quelqu'un qui t'accompagnait à ce moment-là? Ou tu es un peu une personne ressource? Est-ce que c'est... Je sais pas, vous avez beaucoup de transmission dans la danse? Est-ce qu'il y a des personnes qui... Comment est-ce que c'est, en effet, si c'est aussi clé et que tu y es parvenu, comment est-ce que tu as quelques conseils à nous donner?
C'est pas vraiment un conseil du coup, mais j'ai la chance d'avoir un environnement familial très stable et d'un très grand soutien sans que ce soit intrusif non plus. Et clairement, surtout pendant toute la période de l'école, mais même après, dans le début de ma carrière et toujours maintenant, ça a été d'une grande aide, cette stabilité, ce regard toujours encourageant, sans me mettre la pression et l'attente que je peux me mettre ou que des professeurs ou autres peuvent me mettre. Donc ça, c'était vraiment clé. Je ne peux pas vraiment conseiller aux gens d'avoir une super famille. mais de savoir s'entourer, en tout cas. Je pense qu'il y a, même si ce n'est pas la famille, si ce sont des amis ou une partenaire, je pense que d'arriver à voir les gens qui nous encouragent à donner le meilleur de nous sans pour autant mettre une pression déplacée.
Et est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as eu un petit coup de moins bien, on va dire, et la personne avec quelqu'un a réussi à t'encourager sans te mettre la pression? Parce que je trouve que c'est ça qui est difficile, cet équilibre entre vas-y Léonore, et en même temps pas te dire vas-y sinon c'est pas bien. Tu vois, c'est extrêmement difficile.
Ouais, alors un exemple qui est bizarrement vraiment très très lointain, c'était donc quand j'ai commencé ces cours de danse avec la nouvelle professeure qui était nettement moins fun que la précédente et qui me faisait pleurer à chaque cours. Et ma mère, parce que certainement j'ai dû dire mais j'ai envie d'arrêter, c'est pas drôle du tout votre histoire. Et
ça suffit.
Et ma mère me disait bon écoute, calme-toi, respire, tu n'es pas obligée de continuer la danse. En revanche, on t'a inscrite pour cette année, donc cette année tu continues d'y aller et on n'est pas obligé de faire des cours particuliers, mais en revanche tu retournes aux cours de danse et tu travailles sans forcément qu'on attende quoi que ce soit à la suite. J'étais pas obligée de faire des concours, que j'étais pas obligée de faire de cours en plus, mais qu'en revanche j'y retournais, je me ressaisissais et j'y allais avec le sourire. Voilà.
Donc finalement, c'était te libérer un peu d'une culture du résultat, te libère un peu des attentes. Par contre, on te dit bon, tu as un engagement, mets la bonne attitude et ensuite. Voilà, c'est tout. C'est un peu ça qui t'a aidé à...
Oui, c'est vrai. Et plus tard, alors du coup, bien plus tard, on fait une ellipse temporelle. Ouais. C'est une danseuse étoile qui s'appelle Alice Renavant qui m'avait donné un conseil qui lui avait été transmis par une autre danseuse étoile qui s'appelle Bonnie Cloutière.
D'accord.
C'est deux mots, c'est vraiment simple, c'est humour et humilité. D'accord. Parce qu'en fait, parfois, on se prend quand même super au sérieux, ou en tout cas, on prend beaucoup trop au sérieux ce qu'on fait. Il ne faut pas oublier qu'on est des saltimbanques. Et donc, y aller avec humour et humilité, se dire, là, je vais divertir des gens sur scène. Ce n'est pas un drame si ça ne se passe pas exactement comme j'avais prévu. Ouais. Tant que j'offre ce divertissement ou ce moment de rêve, ou que j'arrive à produire quelque chose qui soit du domaine de l'émotion, de la beauté, mais pas forcément ce résultat technique vraiment complètement froid et sportif, justement.
Oui, alors, en fait, pas oublier que c'est un jeu, finalement, c'est presque un... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit souvent sur le sport, c'est si tu perds ton match, c'est pas oublier que c'était un jeu, donc c'est une prestation, mais c'est pas forcément les gens vont pas mourir si tu tombes sur scène.
Exactement. Et d'ailleurs, ça c'est, enfin vraiment, si je confie des trucs techniques de comment j'enlève mon stress parfois avant des spectacles, parfois j'hésite pas à avoir recours, mais vraiment à me dire que en fait là en ce moment il y a des guerres, il y a des gens qui meurent tous les jours. Je suis pas en train de devoir décider de la vie ou de la mort de personne. Moi, je vais vraiment juste mettre un tutu et danser, donc ça va bien se passer. Et l'avenir de personne n'est en jeu ce soir. Donc parfois, je suis obligée de me dire ça, ouais, pour rentrer sur scène. Ouais.
Et alors justement, juste avant de rentrer sur scène, c'est ça que tu te dis ? Est-ce que tu fais aussi un peu
ça, c'est quand ça va pas. Hein. Je suis pas obligée de penser à la guerre à chaque fois avant de rentrer sur scène, mais quand ça va pas, sinon, et que je me dis que je suis en train de paniquer, je manque un peu. Enfin, j'essaie de dézoomer de ma situation et de me dire que vraiment il n'y a aucun enjeu. Ce qui ne m'empêche pas de prendre en fait très au sérieux ce que je fais, parce que naturellement, pour le quotidien et pour le travail, faut se dire que c'est le truc le plus important de la Terre. Mais c'est le moment d'y aller, le moment où le stress monte, je pensais bien de dézoomer un peu. Ou alors, en option plus bienveillante, je me dis qu'en fait, je dois à la petite moi de 8 ans de profiter de ce spectacle, parce qu'en fait, c'était vraiment le rêve de cette petite moi de 8 ans de faire ça. Donc du coup, maintenant, j'y suis. Et donc, j'ai plutôt intérêt à en profiter. Donc, bienveillance, mais quand même, petit coup de pied au cul.
Oui, c'est un subtil mélange, en fait, entre soit indulgente envers toi-même et en même temps, soit extrêmement exigeante envers toi-même, parce que t'as des attentes et en même temps, t'as envie de te faire plaisir et pas oublier que c'est un rêve qui se réalise.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est trouver le juste équilibre entre extrême exigence et puis bienveillance envers l'humain qui n'est pas un robot que je suis.
Et donc là, tu le disais, tu es devenu à 26 ans dans Sous Étoiles, donc c'est très jeune. Ça veut dire qu'il te reste, t'as la retraite donc vers 42 ans et demi, si je crois.
C'est ça.
Donc 16 ans de danseur étoile. C'est long, 16 ans, quand on a déjà accompli son rêve. C'est-à-dire que comment est-ce que tu fais pour maintenir ta motivation ? Est-ce que tu te donnes d'autres objectifs ? Comment tu fonctionnes ?
Honnêtement, ça n'a pas été difficile de maintenir ma motivation. Finalement, je me suis aperçue que dans ces étoiles, ce n'était pas tant que ça une carotte pour travailler. Je suis très contente d'avoir obtenu cette validation et ce titre, mais en soi, ce qui importe le plus, c'est les spectacles, c'est faire les rôles sur scène, et ça, je dois tout le temps en faire, et j'ai toujours envie qu'il soit excellent. Donc c'est pas trop dur de maintenir cette motivation là. Au contraire, enfin, je veux dire, j'ai accès à tous les rôles trop bien, dont je rêvais. Donc, donc c'est plutôt motivant, en fait.
Ouais. Donc, t'en fais beaucoup de plaisir. Ça t'a permis d'avoir beaucoup de plaisir au quotidien dans ton...
Oui. C'est vraiment une très belle façon de vivre sa passion en dehors de la pression que sur laquelle on a un peu assisté avant. Mais en soi, vraiment, jusqu'à présent, j'ai pu faire quasiment tous les rôles dont je rêvais. Ouais. Quasiment. Ouais. Et heureusement, il me reste encore quelques-uns pour les 9 ans à venir.
Ouais, heureusement.
Mais c'est non, c'est une chance immense aussi, et c'est vraiment la meilleure condition possible pour exercer cet art qui, enfin, selon moi, hein, mais je veux dire, dans l'opéra Garnier, bon, pas si aussi, mais disons spécialement Garnier, qui est un des plus beaux bâtiments du monde, avec les costumes qu'on a à l'opéra, parce qu'on a, en fait, c'est une très belle compagnie, il y a des très beaux danseurs, mais c'est tout l'entourage aussi qui fait de cette maison une maison exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a une qualité de décor, de costumes, d'orchestre qui est quand même vraiment très impressionnante sur tous les points. Donc, ce qui fait que moi, je suis en admiration aussi devant le travail des gens autour de moi, et ça donne aussi envie de s'investir pour chacun donner sa part d'excellence.
Ouais. Et alors, il y a cette partie des rôles qui donnent de la motivation, qui nourrissent le rêve de petite fille que tu avais et que tu as encore. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'envers du décor, où tu as ces heures d'entraînement, c'est extrêmement difficile. On sait que c'est comme dans beaucoup de disciplines, quand on vous voit sur scène, on se dit « Ah, ça a l'air facile !» Et puis il suffit de commencer à essayer pour qu'on se rende compte du monde que c'est, qui est quasiment inaccessible pour quelqu'un qui n'a jamais fait de danse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu t'entraînes, des efforts que tu dois faire, et comment ça se passe ?
Oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais dire qu'à l'opposé de la plupart des disciplines sportives, nous, c'est pas juste... Enfin, les gens se disent que c'est facile, pas juste parce que... on le fait avec une impression de facilité. C'est que vraiment, on doit donner l'impression que c'est facile. On doit cacher l'effort. On doit pas... Nous, on ne peut pas faire un cri avant de faire un saut ou avoir un gros élan bien visible avant de faire... Enfin, je veux dire, le but, c'est que c'est l'air de faire pouf. Enfin, de vraiment...
Exactement.
C'est-à-dire que les gens se disent que ça a l'air facile, c'est l'objectif. Donc, voilà, c'était l'aparté sur la différence qu'on ne considère pas toujours avec les disciplines sportives. C'est que ces grands sauts et ces difficultés techniques, on doit les faire avec le sourire et voilà, l'impression que c'est simple. Du coup, j'ai oublié la question.
Et la question, c'était un petit peu comment tu t'entraînes, comment tu arrives à...
Alors, la journée type commence par un cours de danse. Ça, c'est vraiment tous les jours, on va dire 6 jours par semaine. Et dans ces cours de danse, on a une partie à la barre où on fait des exercices répétitifs qu'on pourrait comparer à des gammes, par exemple, pour les musiciens. C'est un mélange entre échauffer son corps et continuer de travailler à améliorer les différentes postures. Ensuite, on fait la même chose, donc des exercices, mais cette fois-ci au centre. Et à l'issue de ce cours qui dure entre 1h et 1h30, on va avoir les répétitions des ballets en cours. Donc ça, la durée des répétitions dépend beaucoup des rôles, de l'intensité, du nombre, de où on est dans la phase de répétition. Mais ça peut être entre 1h30 et 6h. Donc voilà, la fourchette est large.
Oui.
Et généralement, là-dedans, il faut caser un peu de récupération par les kinés. Il faut rattraper les dégâts.
Ouais, ouais.
Ça, c'est à intégrer dans la journée quelque part. Et si on a un spectacle, évidemment, on va répéter moins longtemps. Et dans ce cas, on refait la phase d'échauffement. D'abord, on se fait coiffer, maquiller. Ensuite, on refait la phase d'échauffement avant d'aller en scène. Et là, on fait le spectacle qui finit généralement vers 22-23 heures, et donc le lendemain, le cours pique un peu. Voilà.
D'accord, et ça m'a fait penser au cyclisme, ce que tu disais, on a eu un entraîneur d'une équipe de cyclisme du Tour de France sur ce podcast, qui faisait un énorme lien entre la souffrance et son sport, en disant, il était assez extrême, il disait, le cyclisme, c'est 99,9% de souffrance. Alors, je ne sais pas si c'est à ce point-là, la danse classique, mais en t'écoutant, je me demandais s'il n'y avait pas aussi... la souffrance ne faisait pas partie de ce sport. Et tu penses que c'est quoi un peu le rapport entre la souffrance et ce sport ?
Je pense que c'est vraiment une partie intégrante de notre vie, même pas de notre sport, parce qu'on a mal aussi quand on n'est pas en train de s'entraîner.
Ouais.
Et ce, depuis longtemps, en fait. Souvent, quand les gens ont une image de sacrifice, de métier extrêmement difficile et tout ça, je pense qu'ils ont... pas complètement raison, dans le sens où moi j'ai pas du tout l'impression de faire des sacrifices au quotidien pour vivre mon art. Au contraire, enfin, comme je disais, c'est génial. Je fais un métier que j'adore, enfin, c'est super. En revanche, là où je dois admettre qu'il y a une différence avec la plupart des métiers, c'est qu'on a très mal souvent et depuis qu'on est petit. Et ça, c'est quelque chose que, comme c'est depuis qu'on est petit, on a appris à vivre avec, à l'accepter, à savoir que ça fait partie du quotidien. Mais c'est probablement ce qui entraîne le plus de lassitude. On ne va pas se mentir, avoir mal tous les jours, tout le temps, avec plus ou moins d'amplitude.
Mais toi, tous les jours, tu as mal. Tous les jours où tu t'entraînes, tous les jours,
oui,
tu as cette souffrance.
Oui, plus ou moins. Après, il y a la souffrance qu'on a complètement intégrée comme presque positive. Donc celle-là, je ne la compte pas, on va dire. Mais bon, elle existe quand même. Hein, mais...
ouais.
Qui est celle de l'effort. Ça, ça, c'est tous les jours, clairement.
D'accord.
Et après, il y a la souffrance, on va dire, tranquille. Souffrance de j'ai trop poussé, j'ai des courbatures, j'ai un peu mal par-ci par-là, ça va.
Ouais.
Et après, il y a la souffrance inquiétante.
Ouais.
Et celle-là, elle est quand même malgré tout souvent là. Et celle-là, c'est beaucoup plus pesant, puisqu'il y a donc cette gestion de la douleur qui est le symptôme d'une blessure. Hein. Enfin, je veux dire, faut gérer, parce qu'on ne peut pas... En fait, on ne peut pas ne pas danser à chaque fois qu'on a mal, hein, clairement, sinon on ne danse vraiment pas beaucoup.
Oui.
Donc c'est quand est-ce que je risque vraiment d'aggraver la situation, ou quand est-ce que... finalement, ça va. Deux exemples. Là, actuellement, j'ai une très grosse tendinite au tendon d'Achille. J'ai super mal.
D'accord.
Quand je marche, je boite, donc cata. Mais je fais un ballet hyper dur avec plein de sauts, donc vraiment, c'est à peu près la pire conjecture pour cette tendinite. Parce que celle-là, je me la traîne depuis 5 ans, donc je sais la gérer. Quand c'est pas trop dur, j'arrive à peu près à naviguer. Mais là, je sais pas si je vais réussir à faire ce ballet, parce que j'ai 3 semaines de préparation. Là, pour l'instant, j'arrive pas, à cause de la douleur, à faire les pas que je dois faire.
Oui.
Et je ne peux pas prendre des anti-inflammatoires pendant 3 semaines. Donc voilà, c'est quand est-ce que... combien de temps je résiste sans anti-inflammatoires, et quand est-ce que je peux commencer à les prendre pour que ça fasse quand même effet au moment du spectacle. mais que je puisse quand même avoir un entraînement suffisant pour présenter un spectacle correct. Donc là, ça va être... Donc ça, c'est le plus chiant, on va pas se mentir, gestion la plus compliquée. Ça m'arrive pas souvent d'avoir mal à ce point avant, dans la préparation, et sur un truc qui risque vraiment de s'empirer, et qui en plus... c'est pas recommandé du tout de faire des très gros ballets très durs sous anti-inflammatoire parce qu'on cache la douleur et qu'on risque de l'aggraver très fort.
Oui.
Donc ça c'est vraiment pas une super situation. En revanche, il y a plusieurs années, je ne sais même plus quand, j'étais première danseuse 2015, on va dire, j'étais sur un des rôles de mes rêves, c'était donc Juliette dans Roméo et Juliette. Et 10 jours avant le spectacle, rattrapage d'un porté, ça me casse une côte.
D'accord.
Donc ça fait très très mal. Sur l'échelle de la douleur, c'est vraiment une des pires douleurs que j'ai eues. En revanche, c'est pas super grave. Parce qu'une fois que la côte, elle est cassée, elle est cassée, elle peut pas se casser plus. Ouais. C'était pas proche d'un organe vital, donc ça pouvait pas me perforer un organe vital. Donc ouais, tout va bien.
Ta vie n'est pas en danger.
Ma vie n'est toujours pas en danger.
Ça va.
Et donc, en fait, en prenant des antidouleurs assez forts, et après, enfin ça c'était au début, mais après, des spectacles, je les ai fait sans antidouleurs pour pas faire des bêtises. Mais... je n'ai pas eu mal en scène. Alors que j'avais mal en mettant un t-shirt le matin, j'avais mal en faisant des mouvements très basiques, mais en scène, alors que je me faisais lancer et rattraper quand même par
le buste,
j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir eu de la douleur. Et ça, c'est la magie de l'adrénaline quand même qui fait que, surtout s'il n'y a pas d'inquiétude, la douleur, elle peut disparaître de façon assez spectaculaire.
La dimension très psychologique en fait de la douleur, c'est-à-dire que tu l'as accepté et donc presque tu as envie de dire à ton cerveau, tu lui dis celle-là, elle ne me concerne plus.
Exactement, celle-là, elle n'est pas grave, donc on va l'oublier pendant trois actes. Voilà.
D'accord, c'est hyper intéressant. Donc, pour toi, la souffrance fait partie de ce sport, mais en fait, toute une partie, tu l'acceptes, une autre partie est un peu plus inquiétante. Et finalement, donc, quand tu parles d'inquiétude, c'est plus, encore une fois, cette dimension psychologique qui va faire mal, en fait.
Oui, spécialement sur scène, parce qu'en répétition, en revanche, la douleur, elle est là.
Ouais.
Ah oui, parce que j'ai pas parlé de la douleur de usante.
Ah oui.
La douleur usante, c'est celle qu'on a vraiment avec les pointes, par exemple.
Je pensais à ça.
Oui, ou vraiment, typiquement quand on répète des ballets comme des trois actes, où il y a énormément de moments où on fait des piétinés, c'est-à-dire qu'on passe son temps sur pointe, et où on a... ça fait mal aux pieds, quoi. Sans grande surprise. Ça, quand ça arrive et qu'on commence la répétition et qu'on a déjà mal, qu'on se dit mais là je suis partie pour 3 heures sur mes pointes et j'ai envie de pleurer déjà, ça c'est usant. Mais pareil, ça c'est pas grave.
Ouais.
Et sur scène, j'aurais pas mal du tout. Mais en répétition, faut s'accrocher un peu. Ouais.
Et alors, il y a une question que je me posais, c'est il y a ce besoin d'avoir parfois confiance dans ton partenaire parce que si par hasard il y a une erreur, qui peut être de sa part, tu peux faire une chute. Comme tu l'as dit, il faut absolument que tu sois en bonne forme physique, sinon c'est impossible. Comment est-ce que tu arrives à construire cette confiance pour parfois te lancer, pas dans le vide, parce que heureusement tu es réceptionné, mais pour te dire, typiquement, j'ai ne pas avoir peur de te casser à nouveau une côte.
Alors, en l'occurrence... C'est très vrai ce que tu dis, que la construction de la confiance avec le partenaire, c'est super important. En revanche, ce qui me fait peur, c'est pas qu'il me casse une côte ou que je tombe par terre. J'ai plus peur d'une mauvaise coordination, d'une mauvaise alchimie sur scène qui ferait qu'on serait pas à l'aise, qu'on ferait pas techniquement plein de mouvements comme il faut. Mais je veux dire, c'est pas spécifiquement les portées. Évidemment, si je tombe d'un porté, ça me fait plus mal que si je tombe debout toute seule, mais même pas forcément, en fait. C'est plus une question de symbiose en scène, de savoir, à la limite, le petit frisson, c'est de se dire comment est-ce que lui, il va stresser. Parce que moi, je gère mon stress, je me connais, c'est-à-dire que je sais les jours où c'est plus dur que d'autres. Mais quand je danse avec quelqu'un et que c'est la première fois, ça peut très bien se passer en répète. Et puis après, en scène, il se liquéfie un peu, ou alors il devient très centré sur sa performance et du coup, il n'y a plus d'échange, ou alors ça se passe super bien. ça arrive aussi. et donc, c'est plus cet aspect-là, l'aspect donc comment va-t-il réagir en scène. Donc ça, c'est si je ne le connais pas. Après, on n'est pas 1000 danseurs étoiles à l'opéra, on danse souvent entre nous. Donc du coup, je les connais à peu près tous. et j'ai pas beaucoup de surprises. Évidemment, il y a des gens jeunes qui sont promus ou à qui on donne leur chance, qui ne sont pas encore étoiles. Donc, avec ces gens-là, on va faire probablement un travail de répétition souvent un peu plus pousser sur les pattes d'œufs pour être sûr que la technique soit suffisamment solide pour qu'en scène, même avec un peu de stress, ça passe quand même.
Ouais. Et puis après, t'as déjà parlé à quelqu'un où tu te dis, tiens, je trouve qu'il y a un peu de stress.
Oui, ah bah, je sais pas si ça se dit, mais il y a quelques danseurs avec qui je n'aime pas danser. Alors, ils sont pas, ça m'est pas arrivé parmi mes partenaires qui sont danseurs étoiles, donc tant mieux. donc, c'est juste, voilà, il y a eu parfois des situations de remplacement ou alors de plus petits rôles où je me suis dit, oula, là vraiment, je me sens pas en confiance en scène. Donc, j'essaie de faire un peu moi toute seule sans. en espérant que ça passe. Et voilà, mais c'est très inconfortable, effectivement. Et heureusement, on a la possibilité de discuter avec les directions sur avec qui est-ce qu'on préfère danser ou pas. Si c'est sur un ballet de 20 minutes, c'est pas grave, on va dire que ça peut passer. Si c'est un 3 actes, un ballet vraiment, ou alors où il y a vraiment des portées très acrobatiques et un peu périlleux, je les ferai pas avec n'importe qui. Ceci étant dit, ça m'est arrivé d'avoir mon partenaire qui se blesse et d'avoir de danser avec un remplaçant. Mais jusqu'à présent, j'ai plutôt eu plein de chance parce que un des remplaçants avec qui j'ai dansé plusieurs fois ces dernières années, toujours en situation vraiment d'extrême urgence et pour des trucs super durs, c'était Guillaume Diop, qui vient d'être nommé étoile, enfin qui vient, ça fait un an en fait maintenant, et qui s'est révélé être un partenaire incroyable. C'est-à-dire que vraiment, je me disais, donc là, c'est quand même vraiment cata parce que mon partenaire s'est blessé, je danse après-demain un 3 actes super dur, et puis lui arrive et en fait, il est magique. Donc, les deux situations existent.
Et t'as réussi à le mettre en confiance? Qu'est-ce que tu lui as dit quelque chose, par exemple, à Guillaume Diop? Parce que c'est hyper dur si on se met à sa place là, genre.
Pour lui, je pense que ça a été hyper dur, spécialement la première fois où on a dansé ensemble, parce qu'il était quadrille, donc au stade le plus bas de la hiérarchie, et il remplaçait un rôle d'étoile. Donc, situation méga stressante.
Et alors, mais il y a parté, comment ça se fait que ce soit un quadrille qui soit allé remplacer un étoile?
Eh bien, il avait été mis remplaçant, il avait été désigné remplaçant par la direction qui avait envie de le tester comme soliste à ce moment-là déjà. Il était pressenti pour être promu quand même dans les prochaines années. Et,
il a sauté quelques classes.
Il a sauté quelques classes, Et puis c'était un moment où il y avait plusieurs des gens dans les grades intermédiaires qui étaient blessés, donc il n'y avait pas non plus tous les gens sur qui on compte d'habitude qui étaient disponibles pour être remplaçants. Ouais. Et puis, comme c'était le rôle justement de Roméo dans Roméo et Juliette, c'est pas lui qui m'a cassé la côte, c'était une fois bien avant. Et en plus, j'en veux pas du tout. Des choses qui arrivent. C'est vraiment un accident. Mais donc, Guillaume, qui était remplaçant, j'avais jamais dansé avec lui. Je le connaissais même pas. il venait de rentrer dans la compagnie. Il était super jeune. Et en fait, on a fait une répétition. Et tous les pas de deux avec les portées les plus acrobatiques, on les a fait, mais sans heurts. Je me suis dit, ça, c'est incroyable. Donc, ça a dû être méga stressant pour lui. Mais en même temps, il a bien vu que ça se passait bien. La performance l'a rassuré. Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu pour le rassurer. La directrice, qui était Aurélie Dupont à ce moment-là, l'avait beaucoup rassuré aussi. Et puis.
Donc il y a un peu une culture de mettre en confiance quand on t'écoute, c'est ce qui ressort.
Je ne sais pas si on peut dire que c'est une culture.
D'accord.
En tout cas, là, ça s'est produit.
D'accord.
Non, je ne dirais pas que c'est une culture. En revanche, c'est quand même une culture qui évolue parce que c'est de mieux en mieux. Pour être maintenant dans la maison depuis 15 ans, clairement, je vois qu'on essaie de plus en plus. Et de mieux en mieux, de mettre les gens dans des bonnes conditions pour faire des spectacles. Ouais. Alors que quand je suis rentrée, je me souviens que spécialement les jeunes qu'on testait, ont testé un petit peu leur mental du même coup. C'est-à-dire, on va vous mettre vraiment dans des conditions assez abominables et on va voir si vous en sortez quand même.
Ouais, d'accord.
Ce qui n'est pas le mieux pour faire des bons spectacles. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue quand même que le but, c'est des bons spectacles pour le public qui a payé ses places.
Oui, donc un peu à l'ancienne et maintenant,
ça a quand même bien évolué.
Vous parlez de santé mentale ou c'est un mot qui...
C'est un mot qui est apparu, mais assez, assez récemment. Je ne sais pas, il y a 2-3 ans.
D'accord.
Depuis 2-3 ans, il y a un psychologue qui intervient, je crois, deux fois par semaine à l'Opéra, qui fait des permanences qu'on peut aller voir si on le souhaite.
Tout le monde peut aller voir en toute confidentialité.
Oui.
D'accord.
Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui faisait de la préparation mentale, mais je crois qu'elle n'y est plus.
D'accord. Mais en tout cas, la notion est...
La notion est
acceptée et tout à fait possible.
Oui, tout à fait possible. En fait, je pense que tous les aspects de notre santé, donc aussi la santé mentale, sont de mieux en mieux pris en compte. Mmh. Clairement, ça, c'est une super évolution qui avait commencé avec la direction de Benjamin Millepied, qui avait fait vraiment améliorer notre pôle santé. Parce qu'avant, on n'avait pas aussi autant de kinés, d'ostéos, de masseurs et tout. Donc, il avait vraiment fait un gros chantier là-dessus. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec les directions suivantes, ça a continué de s'améliorer.
D'accord.
Donc vraiment, maintenant, c'est vraiment satisfaisant. Je me souviens, avant, quand je suis entrée dans la compagnie, au début, si j'avais le moindre souci de santé, j'allais à l'extérieur. Donc, je prenais sur mon temps, sur mes frais. Enfin, faut trouver aussi des gens
compétents
et de confiance. Donc, c'était quand même beaucoup moins simple, alors que maintenant, on peut tout faire à l'opéra.
Oui, il y a tout cet accompagnement. En fait, on est là pour vous aider jusqu'au bout.
Oui,
vous êtes moins laissé à vous-même. En fait.
Clairement. On est beaucoup mieux entouré, encadré, aidé. Ouais. On a aussi, on a même des camions de cryothérapie qui viennent pour la récup plusieurs fois par semaine. Enfin, non, vraiment, ça, c'est une évolution hyper positive.
Oui, vous êtes un peu passé de « on est là pour voir si tu vas craquer » à « on est là pour t'accompagner pour que tu performes bien et que tu te sentes bien ».
D'ailleurs, il y avait toute une culture justement de ne pas dire si on est blessé, de cacher, de...
Voilà, parce qu'on a peur d'être remplacé,
parce qu'on a peur d'être remplacé ou même on a peur d'être vu comme fragile.
D'accord.
Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a une bien meilleure gestion, et accompagnement de la douleur. C'est-à-dire que, pour les étoiles, c'est peut-être différent, probablement qu'ils ont toujours été traités un petit peu mieux que d'autres. Mais là, par exemple, je dis, aujourd'hui, je le sens pas de répéter pour mon histoire de tendinite. Je prends deux jours un petit peu calme. Je fais les soins avec les kinés. La médecin, elle m'a aiguillé. Tu attends un peu avant de prendre les anti-inflammatoires. Tu fais des exercices. Mais tu fais effectivement pas les sauts et pas les répétitions. J'ose espérer, je pense. En tout cas, je me sens pas jugée par qui que ce soit de faire ça, de prendre soin et d'essayer juste d'avoir en tête l'objectif qui est de faire des bons spectacles. Alors que, une époque, les gens dansaient super blessés et ont des hanches en plastique maintenant, quoi. Ouais.
Et il y a aussi, je trouve, cette notion dans l'accompagnement au niveau de l'opéra, de l'accompagnement du collectif. C'est-à-dire que quand on regarde sur le papier le fait qu'il y ait ce système de promotion, donc pour arriver premier danseur, puis étoile, et avec les étapes qui sont avant, il peut y avoir dans l'organisation une certaine rivalité, j'imagine, parce que y a un nombre de places limité par rapport à plus de danseurs pour ce nombre de places. Est-ce que il y a quelque chose qui est pensé pour faire que cette rivalité, elle ne soit pas néfaste, mais plus stimulante qu'autre chose ?
Non.
Non, ça se fait naturellement ? Ou ça ne se fait pas,
Hein. Je pense que ça dépend beaucoup des années, des individus qui sont en compétition. Il y en a qui le vivent plus ou moins bien. Ça dépend aussi depuis combien d'années ils essaient d'obtenir ce poste. Est-ce qu'ils se sentent lésés ou pas s'ils ne l'obtiennent pas ? Est-ce qu'ils sont en compétition avec des gens qu'ils aiment bien, des gens qu'ils n'aiment pas ? Enfin, vraiment, on voit de tout. Je dirais que globalement, vu que la santé mentale de l'opéra va mieux, enfin, à mon sens, est quand même nettement mieux que quand je suis entrée, ça se ressent aussi à ces moments-là, à ces moments de plus de compétition. Mais enfin, comme tu dis, on ne va pas se mentir, s'il y a un poste pour 20 filles, ça va être un moment compétitif, ces concours de promotion, c'est obligatoire.
Ouais. Et toi, cette compétition, tu l'as ressentie de manière néfaste ? Ça t'a atteint parfois ou...
Oui, c'est sûr que c'est pas hyper sympa. Après, on y est confronté depuis qu'on est petit aussi.
Ouais.
Ça fait vraiment partie de notre vie. Et voilà, il y a des années où c'est pire que d'autres. Je pense que c'est... J'ai envie de dire que ça doit être partout pareil, non ? Quand il y a un très haut niveau de compétition, c'est pas un super moment, humainement.
Ouais.
Et puis après, il passe, et après, on fait des ballets collectifs, où on se retrouve, on fait des trucs beaucoup plus sympas ensemble en scène, et tout va bien. Mais moi, je ne fais plus de concours depuis 2015, et ça, je suis très, très, très contente, parce que c'était vraiment pas drôle.
Ouais. J'imagine que ça va être sympa de passer cette étape que la mettre derrière soi. Je voulais parler d'une association que tu as montée maintenant il y a 2 ans, Anozar. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, avec plaisir. Alors, c'est une association qui vise à soutenir un enseignement artistique essentiellement, mais aussi un peu académique, dans le bidonville de Kibera à Nairobi. En fait, j'ai découvert une association locale par le biais d'une autre association dont je suis ambassadrice qui s'appelle What Dance Can Do. Et j'étais allée donner des cours de danse là-bas, donc à Kibera. Et en fait, l'organisation sur place qui offre donc des cours de danse classique, donc c'est pour ça que j'étais là, mais aussi de danse contemporaine, de danse africaine, de musique, de théâtre, de cirque, d'art dramatique, d'écriture créative. Enfin, vraiment un super large panel de disciplines artistiques. Donc à ces enfants dans le bidonville, donc qui vivent dans l'extrême pauvreté, mais qui donc par ce biais ont une possibilité de s'exprimer, de découvrir une discipline, de s'y tenir, parce que ce sont des cours qui sont hebdomadaires.
Ouais.
Et en fait, le travail est tellement super sur place qu'avec ma mère, on a décidé de monter une association avec d'autres de ses amis également, et pour vraiment soutenir pleinement cette activité là-bas. Et donc, on y était là en janvier pour l'ouverture d'un centre artistique, parce que jusqu'à présent, ils donnaient les cours avec une école scolaire, donc c'était un peu dans le préau ou dans les salles de classe après les heures d'école. Donc, c'était pas super pour donner des cours de danse, par exemple. Et maintenant, il y a un centre artistique qui a été inauguré donc le 31 janvier cette année, qu'ils ont construit donc dans le bidonville, mais qui est, c'est vraiment un lieu super, qui en plus d'offrir des locaux pour toutes les disciplines artistiques, a aussi de l'eau pour prendre des douches et qui est également potable, ce qui évidemment est un enjeu dans le bidonville. Et la personne qui gère tout là-bas, qui s'appelle Christine Savane, qui est une femme mais vraiment exceptionnelle, elle fait aussi en sorte que ce soit un lieu de rencontre pour les enfants qui sont aussi déscolarisés, puisque avant, comme c'était avec une école, c'était que ça ne concernait que les enfants qui vont à l'école, mais là ça concerne aussi les enfants qui ne sont pas forcément scolarisés. Et ça permet aussi de leur dispenser des cours, par exemple, d'éducation sexuelle, d'éducation à l'hygiène, d'éducation diverse, enfin, en fait, à l'environnement, à la préservation de l'environnement. Et donc, elle est incroyable. Et par le biais de mon association, on soutient aussi 6 enfants actuellement dans leur scolarité. Parce que quand ils ont 13-14 ans, ils ont un examen national qui leur permet d'intégrer des écoles qui sont souvent avec internat. Et ça leur permet du coup de sortir du bidonville s'ils sont bien classés dans ces examens. Et donc donc on soutient 6 enfants qui vont à l'internat hors du bidonville et qui ont une scolarité qui, on espère, leur permettra d'avoir un bel avenir.
Ah, bravo pour ce projet.
C'est gentil.
On se rapproche de la fin de cet épisode. On a pris l'habitude de faire un petit jeu du tac au tac. C'est-à-dire, je commence une phrase et je te laisse la terminer en un ou deux mots, si ça te convient.
Ok.
Alors, quand j'ai du mal à me lever le matin, je...
Mais j'ai ma fille qui fait des sourires. Donc, ça va.
Et alors, ce qui me donne de l'énergie au quotidien, c'est...
J'en ai. Je n'ai pas besoin qu'on m'en donne, je crois que ça va.
C'est toi qui en donnes.
Je sais pas si j'en donne, mais j'en ai.
Ce qui me prend de l'énergie au quotidien, c'est...
C'est les tâches ennuyeuses, répétitives que j'ai procrastinées et que je dois faire.
D'accord, un peu la phobie de l'administratif, par exemple.
Par exemple.
Le moment où j'ai le plus douté, c'est...
C'est quand j'étais pas promue pendant 4 années consécutives à l'opéra, au début.
Et c'est après où ta carrière, entre guillemets, s'est pas mal débloquée, ou pour le coup, ça allait beaucoup plus vite juste après?
Ah bah après, j'ai été promue tous les ans, donc c'était vraiment très, très peu régulier comme évolution.
Quand je ne me sens pas bien, les mots qui me réconfortent sont...
Je t'aime.
Si j'avais un secret du mental à partager, ce serait...
Eh ben, humour et humilité.
C'est vrai, c'est vrai. Et si je devais écrire mon autobiographie, le titre serait...
Mais je ne vais pas en écrire une tout de suite parce que c'est... J'ai pas fini ma vie. Je trouverai le titre quand le livre sera terminé.
D'accord.
je choisirai le titre à la fin du livre.
Et est-ce que tu as une recommandation de podcast, de livre, de film, de musique à nous partager qui t'a inspiré? Tu te dis, tiens, ça.
Ouais. Alors, de podcast, puisqu'on y est, moi j'aime bien. Elle les a arrêtés maintenant, mais c'était La Poudre de Lorraine Bastide.
Ouais.
Et en ce moment, j'aime bien aussi ceux de Swann Périssé, Il n'y a plus de saison.
D'accord, ouais.
Où elle invite des militants et des activistes écologiques, mais où en même temps, c'est quand même humoristique. et de livres, bah, plein. Enfin, je veux dire, il faut faire un autre podcast, il faut m'inviter dans un podcast littéraire dans ce cas. mais si on est sur le thème de l'énergie. Ah bah si on veut se motiver et si je reste dans le truc de la danse, donc là je suis vraiment super corporate, hein, mais,
mais très bien.
Il y a une biographie de Nourieff qui vraiment donne envie de se battre et de danser, de travailler au quotidien avec toute son histoire d'évasion de l'ex-URSS.
Qui s'appelle comment ?
Nourieff l'insoumis.
Nourieff l'insoumis, d'accord. Ouais. Ouais, trop bien. Et est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé pendant ce podcast ? Tu dis, tiens, c'est dommage que Guillaume n'ait pas posé la question. C'était le sujet et il est passé à côté.
Non, alors c'est peut-être pas que tu es passé à côté du sujet, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas intégré dans mes réponses, mais je pense qu'un des éléments qui me pousse et m'entraîne le plus, on va dire, c'est probablement la musique. C'est aussi la dimension différente de notre sport et art, c'est qu'il est porté par quelque chose d'extérieur à ce qu'on fait, qui est la musique, et qui est complètement, à mon sens, divin. Ouais. Enfin, vraiment, il y a un truc qui n'est pas humain, en tout cas, pour ne pas parler de Dieu, mais un truc vraiment surhumain, on va dire, voilà, plutôt. Ouais. Surhumain, qui m'entraîne, qui m'inspire, et qui me motive, justement, quand... bah justement, en début de répétition, j'ai un peu la flemme, j'ai un peu mal aux pieds. Y a Tchaïkovski ou Prokofiev qui est joué, mais il n'y a aucune chance que je reste assise bêtement. Enfin, je veux dire,
ça t'aide à accepter le fait que tu avais un peu mal aux pieds et hop, t'es parti. Quoi.
Et puis ça guide aussi toute l'interprétation. C'est-à-dire que généralement, elle est inscrite dans la musique et c'est vraiment une source d'inspiration. Voilà, source d'inspiration et de motivation.
D'accord. Et dernière question. Qui souhaiterais-tu voir intervenir dans ce podcast ?
Alors, on a parlé de Guillaume Diop avec comment il a géré son stress de remplacer Roméo et Juliette. Invitez-le, il vous dira. Okay. Il vous racontera sa version de l'histoire.
Bon, on va le contacter. On espère que ce sera la même version. Hein.
Ouais, je trouve que c'était horrible, elle était trop méchante.
Elle m'a mis beaucoup de pression. Ouais. merci beaucoup, Léonore.
Et avec plaisir.
Et merci, à très bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Boca.care peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.